Chapitre 6 Convergence d'opinion. La flotte qui les escortait avait grossi. Cérille songeait qu'il aurait été fort intéressant de découvrir les dispositions qui avaient été prises pour que les autres navires les rejoignent en route. L'arrangement avait-il été prévu de longue date? Savait-on à Jamelia que cette démonstration de force accompagnait le gouverneur alors qu'il faisait sa descente sur Terrilleville? Elle était presque certaine à présent que Cosgo serait sacrifié pour justifier une attaque chalcédienne sur la ville. Elle se raccrochait au peu qu'elle savait comme s'il s'agissait d'une pépite d'or. Prévenir les premiers marchands pouvait être le plus sûr moyen d'acheter leur confiance. S'il subsistait en elle quelques restes de loyauté, ils étaient désormais attachés à cet endroit merveilleux auquel elle avait consacré des années d'études. Elle leva les yeux et scruta la nuit. À l'horizon, l'on distinguait un faible rougeoiement. Les lumières du marché de nuit montaient dans le ciel étoilé. Au matin, ils arriveraient à Terrilleville. Un matelot vint se poster derrière son épaule.
« Le gouverneur vous demande, il veut sortir, lui aussi. »
Son accent étranger rognait curieusement les mots.
« Il ne peut pas, il est bien trop faible, mais je vais aller le voir tout de suite. »
Elle n'aurait fait aucun cas de son appel si elle n'avait craint que le capitaine chalcédien n'eût vent de sa désobéissance. En dépit de la force qu'elle avait récemment découverte en elle-même, elle n'osait encore le contrarier. Elle l'avait croisé deux fois depuis qu'il l'avait rendu au gouverneur. Elle avait été mortifiée d'avoir été incapable de le regarder. La première fois, elle avait failli le heurter au détour d'une coursive et c'est tout juste si elle n'avait pas mouillé sa culotte de terreur.
Il avait éclaté de rire quand elle avait décampé. Il était inconcevable qu'elle redoute à ce point un être humain.
Parfois, quand elle était seule, elle s'appliquait à exciter en elle fureur ou haine à son égard. En vain. Le capitaine l'avait plongée dans la terreur. Elle ne pouvait rien éprouver d'autre envers lui. À cette idée, elle pressa le pas pour gagner la chambre du gouverneur. Sans prêter attention à la sentinelle en faction devant la porte, elle pénétra dans une pièce propre et dépouillée. L'air frais de l'océan s'engouffrait par la fenêtre ouverte. Elle hocha la tête avec satisfaction. Les serviteurs avaient laissé son repas du soir sur la table et allumé le chandelier. Un plat de viande en tranches, un entremets aux fruits cuits à l'étouffée, ainsi que des pains sans levain, un flacon de vin rouge l'attendaient. « Des mets simples, » pensa-t-elle avec plaisir, « préparés sur son ordre. » Elle ne voulait courir aucun risque. Le capitaine chalcédien, ni son équipage, n'avaient été affectés par la maladie qui avait décimé les compagnons du gouverneur. Elle doutait qu'on les eût empoisonnés, car elle ne voyait pas quel profit on aurait pu en retirer. Elle suspectait les mets plus délicats que le gouverneur avait apportés avec lui. Peut-être les œufs marinés et les noix ou les pâtés de porc gras s'étaient-ils gâtés. Sur un plateau plus petit était disposé le repas du gouverneur. Un bol de soupe trempée d'eau chaude, une maigre assiettée de purée d'oignons et de navets cuits à l'étuvée. Elle lui autoriserait une petite gâterie, un peu d'eau rougie de vin. Peut-être lui donnerait-elle aussi quelques menus morceaux de viande. Elle avait cessé d'assaisonner sa nourriture avec des émétiques depuis quelques jours. Il ne fallait pas qu'il soit trop faible en arrivant à Terrilleville. Elle sourit, satisfaite d'elle-même, et s'attabla à son repas. Il devrait se remettre provisoirement avant de mourir. En se servant de viande, elle l'entendit remuer dans son lit.
« Cérille,
chuchota-t-il,
Cérille, tu es là ?»
Elle avait tiré les rideaux de son lit. Elle songea à ne pas lui répondre. Il était si faible à présent que s'asseoir et écarter les rideaux exigerait de lui un effort considérable. Elle décida de se montrer gentille.
« Je suis là, Magnadon. Je vous prépare votre repas. »«
Ah, c'est bien. »
Il retomba dans le silence. Elle savoura son dîner à loisir. Elle avait dressé Cosgo à la patience. Les serviteurs s'étaient vus interdire la chambre, excepté une fois par jour, quand il venait faire le ménage sous sa haute surveillance. Elle ne lui autorisait aucun autre visiteur. Son état de santé était beaucoup trop précaire, lui disait-elle. Elle n'avait guère eu de peine à accroître sa peur de la mort jusqu'à l'abrutissement. Une bonne partie de sa suite avait succombé à la maladie. Série elle-même avait été horrifiée par le nombre des victimes. Elle se croyait tout à fait en sûreté, mais elle lui avait instillé l'idée que le mal sévissait toujours à bord. Cela n'avait pas été difficile. Plus elle diminuait ses portions et le droguait au sirop de pavot, plus il devenait maniable. Lorsque ses yeux s'élargissaient et se perdaient dans le vague, il était prêt à tout croire. Au début, quand elle avait entrepris de s'occuper de lui, les autres avaient été trop souffrants pour lui rendre visite, sans parler même d'intervenir. Depuis qu'il s'était remis, elle avait réussi à leur refuser sa porte. Il ne voulait pas être dérangé. Ordre du gouverneur. Série jouissait à elle seule de la chambre spacieuse, à l'exception du lit qu'occupait Cosgo. Elle disposait ainsi de tout le confort. Après avoir achevé son repas et dégusté un verre de vin, elle apporta le plateau au chevet du gouverneur. Elle écarta les rideaux et scruta le malade d'un œil critique. « Peut-être suis-je allée trop loin ?» pensa-t-elle. La peau livide, la figure décharnée, les mains osseuses qui reposaient sur la couverture se crispaient par intermittence. Rien de nouveau à cela. Voilà des années que les drogues de plaisir l'avaient diminuée de la sorte. Si ses mains ressemblaient à des araignées mourantes, c'était seulement l'effet de la faiblesse. Elle s'assit légèrement au bord du lit et posa le plateau sur une table basse. Elle sourit en lui repoussant doucement les cheveux en arrière. « Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux, » dit-elle en lui tapotant la main. « Allons-nous vous nourrir ?»«
S'il te plaît. »
Il lui sourit avec tendresse. Il était persuadé qu'elle était la seule à ne pas l'avoir abandonnée, la seule sur laquelle il puisse compter. Elle grimaça en sentant son haleine fétide quand il ouvrit la bouche pour avaler la cuillerée. Il s'était plaint la veille de plusieurs dents branlantes. Eh bien, il se rétablirait probablement assez vite. Ou pas du tout. Il était resté en vie le temps nécessaire pour lui permettre de débarquer à Terrilville et de s'insinuer dans les bonnes grâces des marchands. Elle n'avait nulle envie qu'il soit suffisamment fort pour être en mesure de contredire son récit. S'il tenait des propos malheureux, elle comptait bien les imputer à l'égarement de son esprit. Il bavait. Elle glissa un bras sous ses épaules et l'aida à s'asseoir.
« C'est bon, n'est-ce pas ? »
roucoula-t-elle en remplissant la cuillère de pain trempé.
« Et demain, nous serons à Terrilville. Ça vous fait plaisir, non ?»
Ronica Vestrit n'avait pas souvenir de la dernière fois qu'on avait sonné la grande cloche appelant les marchands à se réunir. L'aube grisaillait à peine dans le ciel au-dessus de la salle du conseil. Ronica et sa famille s'étaient hâtées de descendre à pied la colline, puis avaient été cueillies en chemin par la voiture du marchand Chouïef. Les gens tournaient en rond devant la salle en s'interpellant. Qui avait sonné la cloche? Pourquoi les avait-on convoqués? Certains arrivants étaient en vêtements de nuit, des capes d'été jetées à la va-vite sur les épaules. D'autres avaient les yeux rougis de sommeil et portaient encore leur tenue de soirée. Tous s'étaient précipités dès qu'ils avaient entendu le sinistre bourdon. Beaucoup étaient armés ou portaient l'épée au ceinturon. Les enfants s'accrochaient à leurs parents. Les jeunes garçons s'appliquaient désespérément à avoir l'air brave, mais nombre de frimousses montraient des traces de larmes. La foule disparate et inquiète ne s'accordait pas avec les bacs à fleurs, les voûtes ornées de guirlandes et les marches enrubannées de la salle du conseil. Les décorations de fête pour le bal d'été semblaient presque la narguer.
« C'est la peste sanguine !»
déclara quelqu'un dans la foule.
« La peste sanguine est revenue à Terrilville. Cela ne peut pas être autre chose !»
La rumeur reprise, répercutée et amplifiée dans l'assemblée, parvint aux oreilles de Ronica. Les murmures enflèrent jusqu'au grondement de panique. Alors, depuis les marches du perron, le marchand Larfa hurla pour réclamer le silence. Propriétaire de la vive nef le séduisant, c'était d'ordinaire un homme sérieux au point d'en être ennuyeux. Ce matin, ses joues étaient rouges d'émoi. Ses cheveux se dressaient sur la tête en touffes désordonnées.
« C'est moi qui ai sonné la cloche !»
annonça-t-il.
« Écoutez-moi tous. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans la salle pour nous réunir comme il conviendrait. J'ai déjà passé le mot à toutes les vives-nefs dans le port et elles sont parties les affronter. Les envahisseurs, des galères de guerre chalcédiennes. Mon fils les a vus au lever du jour et est venu me réveiller. Je l'ai envoyé au môle ouest donner l'alerte aux vives-nefs. Je ne sais pas combien il y a de galères là-bas, mais plus de 10. Ça a l'air sérieux.
Vous êtes sûr? Combien de vives-nefs sont sortis? Peuvent-elles les retenir?
Les questions pleuvaient. Il secoua les poings en direction de la foule.
Je ne sais pas. Je vous ai dit tout ce que je savais. Il y a une flotte de vaisseaux de guerre chalcédiens qui rentrent dans le port. Si vous possédez un navire, armez-le et faites-le sortir. Il faut les retarder. Les autres, descendez au port avec des armes et des seaux. Les chalcédiens ont l'habitude de mettre le feu. S'ils arrivent à débarquer, ils vont essayer d'incendier la ville.
« Et nos enfants ?»
s'écria une femme au milieu de la foule.
« S'ils sont assez grands pour porter un seau, amenez-les avec vous. Laissez les plus petits ici avec les vieillards et les infirmes. Il faudra qu'ils s'occupent les uns des autres. Allez !»
Le petit Seldon était à côté de Ronica. Elle baissa le regard sur lui. Les larmes ruisselaient sur ses joues. Ses yeux étaient immenses.
« Va dans la salle, Seldon !» lui dit Kefria d'un ton faussement joyeux. « On va revenir te chercher bientôt. »«
Non !»
protesta-t-il d'une voix stridente.
« Je suis assez grand pour porter un seau. »
Il étouffa un sanglot affolé et croisa les bras avec défi.
« Malta restera avec toi !» proposa Kefria au désespoir. « Elle peut aider à prendre soin des bébés et des vieillards. »«
Je préfère porter un seau !»
déclara Malta aigrement en saisissant la main de Seldon. L'espace d'un instant, elle ressembla presque à Althea.
« On ne va pas se cacher là en se demandant ce qui se passe. Viens, Seldon, allons-y. »
En haut des marches, le marchand Larfa continuait à crier des ordres.
« Toi, Porfro, va prévenir les familles des trois navires. Qu'on aille aussi avertir le conseil des nouveaux marchands. »«
Comme s'ils s'en souciaient. Laissons-les voir par eux-mêmes, hein !»
riposta quelqu'un avec fureur.
« C'est leur faute si nous avons les chalcédiens dans le port d'abord !»
renchérit un autre.
« Nous n'avons pas le temps d'en discuter. Il faut défendre la ville !»
intervint Larfa.
« C'est Terrilleville qui compte, pas l'époque où nous y sommes arrivés !»«
Terrilleville !»
cria quelqu'un, et les autres reprirent à l'unisson.
« Terrilleville ! Ah, Terrilleville !»
Les charrettes et les voitures roulaient déjà avec fracas dans la cour et se dirigeaient vers le centre de la ville. Ronica entendit par hasard quelqu'un donner des ordres pour qu'on envoie des cavaliers prévenir les fermes éloignées et les colonies. On n'avait pas le temps de rentrer chez soi pour se changer et pas le temps de se poser des questions sur le petit déjeuner qu'on manquait ni sur les bonnes chaussures. Ronica vit une femme et sa fille déchirer sans hésiter leurs jupes volumineuses. Elles se débarrassèrent du tissu superflu et suivirent les hommes dans leurs longs pantalons de coton. Ronica prit la main de Kefria, comptant que les enfants suivraient.
« Il y a de la place pour nous ?»
demanda-t-elle à une voiture qui passait. Le cocher s'arrêta sans un mot. Elles s'entassèrent sans se soucier d'être à l'étroit. Trois jeunes gens sautèrent après elles dans la voiture en marche. L'un d'eux portait une épée rouillée à la hanche. Ils grimaçaient comme des enragés, les yeux brillants, les mouvements vifs et puissants, tels des taurillons prêts au combat. Il faisait de grands sourires à Malta, qui leur jetait des coups d'œil furtifs, puis détournait le regard. La voiture s'ébranla dans un chaos, et Ronica se cramponna. Ils commencèrent à descendre vers la ville. Sur la route, par une trouée entre les arbres, elle entrevit brièvement le port. Les vives nefs étaient regroupées à l'entrée. Des hommes agglutinés sur les ponts tournaient en rond et faisaient des signes. Au-delà, elle aperçut le grand mât d'un navire. Les galères des chalcédiens le cernaient comme des insectes nuisibles, de la vermine.
« Ils battent pavillon jamélien !»
s'écria un jeune homme dans la voiture alors qu'il perdait le port de vue.
« Cela ne veut rien dire !»
fit un autre méprisant.
« Ces bougres de lâches cherchent seulement à s'approcher avant d'attaquer. Il n'y a pas de raison qu'ils soient si nombreux à piquer vers nous !»
Ronica approuva. Elle vit un pauvre sourire fleurir sur les lèvres de Malta. Elle se pencha vers la jeune fille toute pâle.
« Tu vas bien ?»
lui demanda-t-elle à mi-voix. Elle craignait que sa petite fille ne s'évanouisse. Malta rit, un rire grêle, presque hystérique.
« C'est si bête ! J'ai passé toute la semaine à coudre ma robe en pensant à Reine, aux fleurs, aux lumières, à la danse. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir à cause de mes escarpins que je n'aime pas, et maintenant, j'ai l'impression que rien de tout cela ne va se réaliser. »
Elle leva la tête et ses yeux élargis se promenèrent sur le flot de charrettes, de voitures, de piétons et de cavaliers. Elle s'exprimait avec un fatalisme tranquille.
« Tout ce qui, dans ma vie, était presque à ma portée, m'a brusquement été enlevé au dernier moment. Peut-être cela va-t-il se répéter ?»
Elle poursuivit, le regard vague.
« Peut-être demain serons-nous tous morts et notre ville un amas de ruines fumantes. Peut-être ma présentation n'aura-t-elle jamais lieu. Ne dis pas des choses pareilles !»
s'exclama Kefria, horrifiée. Ronica garda un moment le silence. Puis, elle posa sa main sur celle de Malta.
« C'est aujourd'hui, et c'est ta vie. »
C'étaient des mots peu réconfortants, et elle ignorait d'où ils lui venaient.
« C'est ma vie aussi, » ajouta-t-elle.
Et elle porta le regard en avant, loin sur la route qui serpentait jusqu'à la ville. Sur la dunette du Kendri, Reyn regardait s'évaser le sillage de la grande vive nef sur le fleuve. L'aube qui se levait argentait les eaux laiteuses et faisait chatoyer en une cascade de joyaux le dais ruisselant que formaient les arbres sur les rives. La rapidité du courant et les immenses voiles du navire les emportaient à une vitesse incroyable. Il aspira l'air à plein poumon pour soulager son cœur lourd. En vain. Il inclina la tête dans ses mains. Glissant les doigts sous son voile, il frotta ses yeux irrités. Le sommeil profond lui paraissait aussi lointain que les contes de nourrice de son enfance. Parviendrait-il jamais à retrouver le sommeil? Vous vous sentez dans le même état que moi, on dirait. Reyn sursauta en entendant la voix basse et se retourna. Dans le jour douteux de l'aube, il n'avait pas remarqué l'autre homme. Grag Tenira roula un petit parchemin qu'il glissa dans sa manche de chemise. « Mais vous ne devriez pas, » poursuivit-il en plissant le front, « n'allez-vous pas être le cavalier de Malta Vestrit au bal d'été? Y a-t-il là de quoi soupirer ?»«
Pas vraiment, non, »
répondit Reyn, qui plaqua un sourire sur son visage.
Je partage ses inquiétudes au sujet de la disparition de son père et du navire.
C'est tout, mais c'est un gros souci.
J'avais espéré que sa présentation au bal serait une fête, mais elle sera assombrie par tout ceci, je le crains.
Si cela peut vous consoler, le Kendri m'a apporté la nouvelle que l'expédition de sauvetage avait déjà quitté Terrilville.
Ah! J'avais entendu votre nom lié à celui d'Althea Vestrit. Ce mot vient directement d'elle, alors.
Reyn indiqua d'un hochement de sa tête voilée le billet qui sortait un peu de la manche de Grag. Celui-ci laissa échapper un bref soupir.
Un billet d'adieu avant de prendre la mer. Elle nourrit de grands espoirs quant au succès de son expédition, mais aucun à notre sujet. C'est une lettre très amicale.
Ah! Parfois, un ton amical est plus dur que la froideur.
Exactement, approuva Grag en se grattant le front. Les Vestrit sont très entêtés. Les femmes sont beaucoup trop indépendantes. On l'a toujours dit de Ronica Vestrit. J'ai découvert à mes dépens que c'est vrai aussi d'Althea.
Il sourit amèrement. Espérons que vous aurez plus de chance avec la jeune génération.
Elle n'en prend pas le chemin,
admit Reyn avec regret.
Mais je crois que si j'arrive à la conquérir, la bataille en vaudra la peine.
Grag secoua la tête et détourna le regard.
J'éprouvais la même chose à l'égard d'Althea. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je doute d'en avoir jamais le cœur net.
Mais vous retournez à Terrilleville ?
Je ne m'y arrêterai pas, malheureusement. Dès que nous arriverons, ce sera la cale pour moi, jusqu'à ce que nous reprenions la mer.
Et alors ?
Demanda Rein. Grag eut un sourire affable, mais secoua la tête sans répondre.
Vous avez raison. Moins on en sait, mieux ça vaut.
Approuva Rein. Il reporta son regard vers le fleuve.
Je voulais vous dire personnellement à quel point les Ténira sont reconnaissants de l'aide que vous leur avez apportée. Nous soutenir, c'est une chose. C'en est une autre de mettre en jeu la fortune de votre famille.
Rein haussa les épaules.
Le moment est venu pour le désert des pluies et Terrilleville de s'unir, ou bien de renoncer à ce que nous sommes.
Grag contempla l'écume du sillage. Croyez-vous que nous serons suffisamment nombreux à nous unir pour réussir?
Pendant des générations, nous avons fait partie intégrante de Jamelia. Nous avons copié son modèle. Notre langue, nos ancêtres en sont originaires, mais aussi toutes nos coutumes, notre cuisine, notre costume, jusqu'à nos rêves d'avenir.
Quand nous nous éloignons en déclarant « Nous sommes Terrilleville », que disons-nous en vérité? Que serons-nous?
Rein dissimula son impatience. Qu'importait? Il tâcha de formuler une réponse plus adroite.
Je crois que nous reconnaîtrons simplement la réalité des trois ou quatre dernières générations. Nous sommes le peuple des rivages maudits. Nous sommes les descendants de ceux qui ont été assez braves pour venir jusqu'ici. Ils ont fait des sacrifices et nous avons hérité leur fardeau. Je n'en garde aucune rancœur, mais je ne partagerai pas mon droit de naissance avec ceux qui ne s'engageront pas. Je ne céderai pas ma place à des gens qui ne reconnaissent pas ce que cela nous coûte.
Il lança un coup d'œil à Grag, s'attendant qu'il approuve de bon cœur. Mais celui-ci avait l'air troublé. À voix basse, comme s'il avait honte de sa pensée, il demanda
« N'avez-vous jamais songé à envoyer tout promener et à vous enfuir ?»
Un instant, Rein le dévisagea à travers son voile. Puis, il fit observer avec ironie
« À l'évidence, vous avez oublié à qui vous parlez. »
Grag haussa une épaule.
« On m'a dit que vous pourriez renoncer, si vous le vouliez. Quant à moi, parfois, quand je suis loin de mon navire pendant un certain temps, je me surprends à m'interroger. Qu'est-ce qui me retient ici? Pourquoi rester à Terrilleville? Pourquoi suis-je obligé de me conformer au type idéal du fils de marchand?
Il y en a qui se sont émancipés. Brachentrell, par exemple. » Je ne crois pas le connaître.
Non, sûrement pas.
Et vous ne le connaîtrez jamais.
Sa famille l'a déshérité pour inconduite. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, je m'attendais plus ou moins qu'il en meure. Mais non, il va et vient comme il lui plaît, vit où bon lui semble, navigue où le vent le porte, il est libre.
Il est heureux?
Il est avec Althea,
dit Grag en secouant la tête.
On ne sait pourquoi. Les Vestrites l'ont choisi pour commander le Parangon,
et ils lui ont confié Althea. D'après ce que je sais d'Althea, elle n'a pas besoin de la protection d'un homme.
C'est tout à fait ce qu'elle dirait.
Grag soupira.
Moi pas. Je crois que Trell l'a trompée par le passé, et peut encore... Cela me ronge.
Mais est-ce que je me précipite pour aller la chercher et la ramener? Est-ce que j'ai sauté sur l'occasion en disant « J'y vais, je vais commander votre navire fou du moment que je suis avec vous »
Non, je ne l'ai pas fait.
Alors que Trell, si. C'est encore une différence entre nous.
Rein se gratta la nuque. Une excroissance était-elle en train de pousser là?
Je crois que vous faites un défaut de ce qui est en réalité une vertu, Grag. Vous savez où est votre devoir et vous l'accomplissez. Ce n'est pas votre faute si Althea ne peut apprécier cette qualité.
C'est bien le problème.
Et il tira le petit billet de sa manche, puis il y glissa à nouveau.
Elle apprécie. Elle me félicite et m'adresse ses meilleurs vœux. Elle dit qu'elle m'admire. Cela ne vaut pas l'amour.
Rein ne trouva rien à répondre. Grag soupira.
« Mais inutile de s'apesantir là-dessus maintenant. Si l'on en arrive à la guerre avec le gouverneur, cela sera toujours assez tôt.
Althea me reviendra, ou non.
Apparemment, je ne peux guère décider de ma vie. Je suis comme une feuille emportée par le courant. »
Il secoua la tête et sourit, gêné par la mélancolie de ses propres paroles.
« Je vais aller bavarder avec Hendry. Vous venez ?»«
Non. »
Rain se rendit compte de la brusquerie de son ton et chercha à l'adoucir.
« Il faut que je réfléchisse sérieusement. »
À travers la brume grise de son voile, il suivit des yeux Grag qui s'éloignaient vers la figure de proue. Il fourra les mains dans ses poches. Même avec des gants, il ne se hasardait pas à s'appuyer sur l'hélice. Le navire vociférait bien assez contre lui sans cela, et ce n'était pas Kendry qui lui parlait. Il avait déjà navigué sur des vives nefs sans rencontrer ce problème. Le dragon lui avait fait quelque chose. Il ignorait quoi et comment, mais cela l'effrayait. Il avait violé l'accord passé avec sa mère et son frère en allant lui rendre visite une dernière fois. C'était mal, mais c'était mal aussi de l'abandonner sans avoir tenté de le convaincre qu'il avait fait son possible. Il l'avait supplié de lâcher son emprise sur lui, de reconnaître les efforts qu'il avait accomplis. Mais le dragon avait juré de dévorer son âme.
« Tant que je serai prisonnier ici, règne Ruprous, tu le seras aussi !»
avait-il dit en le maudissant. Il avait pénétré dans son esprit en serpentant comme une veine noire dans le marbre, se mêlant à lui jusqu'à ce que Rey ne sût plus où il finissait et où commençait le dragon. Cette intrusion l'avait effrayé plus que tout ce que la créature lui avait fait subir jusque-là.
« Tu es à moi !»
avait-il déclaré. Comme pour souligner ses paroles, le sol avait tremblé. Ce n'était qu'une secousse, occurrence fréquente sur les rivages maudits, une secousse modérée, mais il ne s'était jamais trouvé dans la salle du coq couronné pendant un tremblement de terre. Sa torche éclairait les fresques sur les murs qui ondulaient comme des tentures. Il s'était enfui, poursuivi par le rire du dragon résonnant dans sa tête. Ce rire, il ne pouvait y échapper. Dans sa fuite, il avait entendu le bruit caractéristique des éboulements, celui assourdi d'une coulée de boue suivie du fracas des faïences qui tombaient. Même quand il fut dehors, qu'il se plia en deux, mains sur les genoux pour reprendre son souffle, il ne put s'arrêter de trembler. Il y aurait du travail le lendemain et pendant des jours. Il faudrait étayer galeries et couloirs. Au pire, des quartiers entiers de la cité devraient être abandonnés. Il faudrait tout inspecter laborieusement avant de poursuivre l'exploration. C'était précisément le genre de travail qu'il détestait.
« Échine-toi !»
s'était esclaffé le dragon dans sa tête.
« Tu seras peut-être capable d'étayer les murs de la cité morte, reine Ruprous, mais les murs de ton esprit ne prévaudront pas contre moi ni ma race. »
La menace avait semblé vaine. Que pouvait-il lui faire de pire qu'il n'eût déjà fait? Mais depuis lors, ses rêves avaient été infestés de dragons. Il rugissait et se battait, il s'étirait sur les toits pour se chauffer au soleil, il s'accouplait au sommet des hautes tours d'une cité exotique. Il était témoin de tout cela. Ce n'était pas un cauchemar. Non. C'était un rêve d'une brillance et d'une complexité extraordinaires. Les dragons se mêlaient à des êtres qui se distinguaient légèrement des humains. Ils étaient grands, avec des yeux lavandes ou cuivrés, et leur chair présentait des nuances subtilement différentes de la vie réelle. La vie réelle. C'était bien là le problème. Les rêves étaient beaucoup plus captivants que ces heures vigiles. Il voyait les cités des anciens, il était tout près, amère ironie, de comprendre leur histoire. Il saisissait soudain pourquoi les rues et les couloirs étaient si larges, les escaliers si bas, les portes si hautes et les fenêtres de si généreuses proportions. La vastitude de leur construction était adaptée aux dimensions des dragons qui partageaient la cité.
Il désirait ardemment s'aventurer à l'intérieur des bâtiments, s'attarder près des gens qui flânaient dans les marchés ou se hasardaient sur le fleuve dans leurs bateaux peints de couleurs vives. Il ne le pouvait pas. Dans le rêve, il était avec les dragons. Il était l'un d'entre eux. Il regardait leurs voisins à deux pattes avec une affectueuse tolérance. Il ne les considérait pas comme des égaux. Leur vie était trop brève, leurs préoccupations trop mesquines. Rain, quand il rêvait, partageait leur attitude. Il s'imprégnait de la culture des dragons et leurs pensées commençaient à déteindre sur lui, non seulement dans son sommeil, mais aussi à l'état de veille. Les émotions qu'ils éprouvaient étaient d'une force inconnue de lui. La passion humaine, aussi intense qu'elle soit, n'était qu'une vétille comparée à la dévotion inaltérable d'un dragon pour sa compagne. Ils se chérissaient non des années, mais des vies durant. Il voyait le monde d'un œil neuf. Les champs cultivés devenaient une couverture bigarrée jetée sur le pays. Les fleuves, les collines, les déserts n'étaient plus des obstacles. Quand la fantaisie l'en prenait, un dragon couvrait des distances qu'un homme n'aurait pu parcourir en l'espace d'une vie. Il découvrait que le monde était à la fois beaucoup plus grand et beaucoup plus petit qu'il ne l'avait vu. Il fut affligé de ses rêves progressivement. Il se réveillait fatigué, avec l'impression de n'avoir pas dormi du tout. L'intensité de son autre vie l'attirait. Il passait ses journées dans un brouillard de mécontentement et d'agitation. Il considérait sa propre existence avec dédain. Le fléau de la lassitude s'acharnait sur lui. Il avait grande envie de dormir, mais le sommeil ne lui apportait nul repos. Pourtant, il désirait le sommeil, non pour se reposer, mais pour oublier sa morne vie d'humain et s'immerger une fois de plus dans le monde des dragons. Sa vie d'homme était devenue une fastidieuse enfilade de jours. Les seules pensées qui pouvaient encore l'émouvoir concernaient Malta. Même dans ses rêves, il ne pouvait s'affranchir de la malédiction de la créature, car dans sa tête, les cheveux de Malta brillaient comme les écailles d'un dragon noir. Derrière toutes ses pensées et ses rêves, en mots presque inaudibles et pourtant jamais silencieux, lui parvenaient les lamentations du dragon piégé dans la salle du coq couronné.
« Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Ils ont tous disparu. » Ils sont tous morts, tous les grands et brillants dragons. Et c'est ta faute, Reine Rouprousse. Tu les as achevés par ta lâcheté, ta paresse. Il était en ton pouvoir de recréer leur monde, et tu t'en es éloigné.
Ce dernier reproche le taraudait plus que tout. Que le dragon croit qu'il était en son pouvoir de le délivrer et de ramener sa race à la vie réelle. Alors il avait embarqué sur le Kendry, et ses tourments avaient pris une forme plus cruelle encore. Le Kendry était une vive nef. Les membrures de son corps de navire étaient en bois sorcier. Jadis, à l'intérieur de la salle du coq couronné, les ancêtres de Reyn avaient enfoncé des coins à fendre dans un immense fût de bois sorcier. Ils avaient éventré l'énorme tronc, l'avaient débité en bois d'œuvre, et ils en avaient soustrait un grand bloc pour sculpter la figure de proue. La créature molle, à demi formée à l'intérieur, avait été renversée sans vergogne sur les dalles froides de la salle. Reyn sentait son cœur se contracter chaque fois qu'il évoquait l'image. Il était forcé de s'interroger. S'était-elle tordue de douleur? Avait-elle poussé des cris muets de souffrance et de désespoir? Ou bien, comme le prétendaient sa mère et son frère, était-elle morte depuis longtemps? N'était-elle qu'une masse de matière inerte? Si la famille Rouprousse n'avait pas lieu d'avoir honte, pourquoi avait-on toujours gardé le secret? Les autres marchands du désert des pluies eux-mêmes ignoraient le mystère des fûts de bois sorcier. Bien que la cité ensevelie leur appartint à tous, les familles de marchands avaient de longue date délimité leurs territoires respectifs. La salle du coq couronné et les fragments disparates de bois sorcier qu'elle contenait avaient depuis longtemps été cédés à la famille Rouprousse. Ironie du sort, à cette époque, le bois sorcier était considéré comme de peu de valeur. Un hasard avait révélé ses propriétés uniques, du moins Reyn l'avait-il toujours entendu dire.
Il n'avait jamais été en mesure de découvrir ce qui s'était exactement passé. Si quelqu'un dans sa famille connaissait l'histoire, il la lui avait cachée. Mais le Kendry, lui, ne cachait rien. La figure de proue représentait un jeune homme souriant et aimable. Personne n'en savait autant sur la nature du fleuve du désert des pluies. Jusqu'à cette fois-ci, Rayne avait souvent pris plaisir à bavarder avec lui. Depuis que la malédiction du dragon pesait sur lui, la figure de proue ne pouvait plus le souffrir. Le sourire s'effaçait des lèvres de Kendry, les mots ravalés quand Rayne s'approchait de lui. Le visage de jeune homme devenait non point hostile, mais craintif à la vue du marchand. Il l'observait d'un œil méfiant en oubliant toute conversation. L'équipage du Kendry avait remarqué son attitude singulière. Bien que personne n'ait eu l'audace de lui en faire la réflexion, Rayne sentait les regards s'appesantir sur lui. Il évitait complètement le gaillard d'avant. Pourtant, si Kendry devenait inquiet à sa vue, les émotions de Rayne se faisaient plus vives et plus profondes. Car il savait que jusque dans ses fibres, au-delà du visage aimable d'un beau jeune homme, était tapis l'esprit d'un dragon furieux. Lorsqu'il dormait, même s'il n'était qu'assoupi dans un fauteuil, l'esprit terré, là, l'attendait. La créature pleurait éperdument la mort de tout ce qu'elle avait été jadis. Elle se révoltait contre le sort qui lui avait arraché les ailes et les avait remplacées par de la toile claquant au vent. Au lieu de serres pour saisir ses proies, elle n'avait que de fragiles petites pattes munies d'appendices comme des tubercules flétris. Elle, qui jadis avait été seigneur de 3 royaumes, était aujourd'hui confinée à la surface de l'eau, tossée par le vent, infestée d'êtres humains tel un lapin à l'agonie grouillant de vermine. C'était intolérable. Il le savait, même si la souriante figure de proue l'ignorait. Maintenant, Rayne le savait aussi. Il connaissait l'esprit tapis dans les membrures du Kendry, assoiffé de vengeance. Il redoutait que sa présence à bord de la vive nef ne fortifie ses souvenirs ensevelis. S'il remontait à la surface, que ferait Kendry? Sur qui s'abattrait le plus durement sa vengeance? Rayne était pétrifié à l'idée que le dragon ne découvre qui il était, le descendant de ceux qu'il avait culbuté de son berceau avant sa naissance. Cérille se tenait sur le pont du navire avec à ses côtés le gouverneur soutenu par 2 costauds chalcédiens.
Il était allongé sur une litière de fortune bricolée avec des avirons et de la toile. Le vent lui avait légèrement rougi les joues. Elle lui sourit avec tendresse.
« Laissez-moi parler pour vous, Magnadon. Il faut vous ménager. En outre, ce ne sont que des marins. » « Réservez vos forces pour vous adresser au conseil des marchands. »
Dans son ignorance, il acquiesça avec gratitude d'un hochement de tête. « Dites-leur simplement que je veux descendre de ce navire et aller à terre le plus rapidement possible. Il me faut une chambre chaude avec un bon lit et des repas sains et... »«
Chut, là, vous vous fatiguez. Laissez-moi m'occuper de tout cela. »
Elle se pencha pour l'envelopper plus douillettement dans ses couvertures.
« Je n'en ai pas pour longtemps, c'est promis. »
Ceci, au moins, était vrai. Elle avait l'intention de faire diligence. Elle espérait persuader le navire de Terrilville de n'embarquer que Cosgo et sa compagne. À quoi bon s'encombrer de la suite du gouverneur? Leurs histoires à tous ne feraient qu'embrouiller les marchands. Elle désirait être la première à dire sa version des faits et d'une façon des plus convaincantes. Elle se redressa et serra sa cape autour d'elle. Elle avait choisi sa tenue avec soin et avait consacré un certain temps à sa coiffure. Elle voulait apparaître impérieuse et sombre. En sus des bijoux discrets qu'elle portait, les pointes de ses mules étaient alourdies de plusieurs paires des plus belles boucles d'oreilles du gouverneur. Quoi qu'il advienne, elle n'avait pas l'intention de commencer sa nouvelle vie dans la pauvreté. Elle feignit de ne pas voir le capitaine chalcédien qui se tenait à proximité, la mine renfrognée. Elle s'approcha de la lisse. Elle jaugea l'espace qui séparait les deux navires et chercha à rencontrer le regard des hommes sur l'autre vaisseau. La figure de proue lui jetait des coups d'œil féroces. Quand elle leva les bras pour les croiser sur la poitrine d'un geste de défi, Ceri étouffa un petit hoquet de surprise.
Une vive nef, une vraie vive nef, elle n'en avait jamais vu.
À côté d'elle, les matelots chalcédiens murmurèrent et certains se signèrent pour chasser le mauvais sort. Leur crainte superstitieuse la rendait plus forte. Elle n'éprouvait pas de ces appréhensions-là. Elle se redressa de toute sa taille, inspira profondément et haussa la voix pour se faire entendre.
« Je suis Cérille, la compagne de cœur du gouverneur Magnadon Cosgo. Je suis une spécialiste de Terrilville et de son histoire. Il m'a choisi pour l'accompagner. Aujourd'hui, affaibli par la maladie et dans un état d'épuisement extrême, il me mande de venir à vous et de vous présenter ses salutations. Voulez-vous m'envoyer une embarcation ?»«
Bien sûr !»
déclara un homme corpulent vêtu d'un ample gilet jaune, mais un barbu secoua la tête.
« Silence, Restart, vous n'êtes que toléré ici. Vous, compagne, vous dites que vous viendrez à nous. Vous seul ?»«
Moi seul, pour vous faire connaître la volonté du gouverneur. » Elle leva haut les bras et écarta les pans de sa cape.
« Je suis une femme, je ne suis pas armée. Me laisserez-vous vous rejoindre et m'écouterez-vous ? Il s'agit d'un fâcheux malentendu. »
Elle les observa tandis qu'ils débattaient entre eux. Elle se sentait assurée qu'il la prendrait. Au pire, il la garderait en otage. N'importe, elle quitterait de toute façon ce bateau infernal. Elle se tint droite et immobile. Le vent soufflait dans ses cheveux et la décoiffait. Elle attendit. Le barbu revint à la lisse. Il était manifestement le commandant de la vive nef. Il désigna du doigt le capitaine chalcédien.
« Faites la traversée dans votre yawl. Deux nageurs aux avirons, pas plus. »
Le capitaine jeta un coup d'œil à Ceri avant de regarder le gouverneur. Elle sentit un petit frisson de triomphe la parcourir. Son violeur avait-il fini par se rendre compte qu'elle s'était emparée d'une partie du pouvoir ? Elle s'exhorta à la discrétion et baissa les yeux. Pour la première fois, sa haine égalait sa peur. « Un jour, pensa-t-elle, je serai peut-être assez forte pour te tuer. » Une fois la décision prise, les choses se déroulèrent rapidement. On la poussa sans ménagement dans l'embarcation, comme si elle n'était qu'une composante de la cargaison. La yawl paraissait dangereusement petite et légère. Les vagues la soulevaient et des paquets de mer passaient par-dessus bord. Quand elle atteignit le navire de Terrilville, un jeune matelot descendit pour l'accueillir. Le plus effrayant fut de se tenir debout dans l'embarcation. Alors qu'une lame rapprochait le petit canot, le marin se pencha et la souleva d'un bras, tel un chat qui attrape une souris de dessous une armoire. Il ne dit pas un mot et, sans qu'elle ait eu le temps de reprendre ses esprits, il grimpa à toute allure avec elle à l'échelle de coupé. Il la déposa sur le pont. Pendant un instant, les oreilles bourdonnantes et le cœur battant la chamade, elle entendit à peine les premiers mots que l'homme barbu aboya. Un silence tomba et elle s'aperçut qu'ils la dévisageaient tous. Elle respira. Elle se sentait soudain intimidée d'être là, au milieu d'un groupe d'étrangers sur le pont d'une vive nef. Soudain, Jamélia lui parut si lointaine, presque inexistante. Elle voulut la rendre à la réalité.
« Je suis Cérille, compagne de cœur du gouverneur Magnadon Cosgo. Il a fait un long voyage pour entendre vos doléances et résoudre vos difficultés. »
Elle parcourut du regard les visages. Il l'écoutait avec attention.
« Durant le voyage, il est tombé gravement malade, ainsi que de nombreux membres de sa suite. Quand il s'est rendu compte de la gravité de son état, il a pris des mesures afin de s'assurer que sa mission serait accomplie avec succès, quoi qu'il lui arrive. »
Elle plongea la main sous sa cape dans la poche qu'elle y avait cousue la veille. Elle en sortit le rouleau de parchemin et le tendit à l'homme barbu.
« Par ce document, il me nomme son envoyé à résidence auprès des marchands de Terrilville. Je suis autorisé à parler en son nom. »
Certains parurent incrédules.
«
elle décida de risquer le tout pour le tout plutôt que les laisser douter d'elle. Elle ouvrit grand les yeux et regarda l'homme barbu d'un air suppliant. Elle baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue des Chalcédiens. « Je vous en prie, je crois que la vie du gouverneur est en danger, et il le croit lui aussi. Réfléchissez. M'aurait-il cédé autant de pouvoir s'il pensait débarquer vivant ? Dans la mesure du possible, il faut le faire sortir du navire chalcédien et le mettre en sûreté à Terre-Île-Ville. » Elle jeta un coup d'œil effrayé vers le vaisseau chalcédien.
« N'en dites pas plus !»
prévint le capitaine.
« Ces paroles devraient être prononcées devant le conseil des marchands. Nous allons lui envoyer immédiatement un canot. Pensez-vous qu'ils vont le laisser partir ?»
Elle haussa les épaules d'un air d'impuissance. « Je vous demande au moins d'essayer. »
Le capitaine se renfrogna.
« Je vous préviens, madame. Nombreux sont ceux qui, à Terre-Île-Ville, vont considérer qu'il s'agit d'une ruse pour se concilier nos bonnes grâces. Les sentiments à l'égard du gouverneur sont devenus hostiles ces derniers temps, car vous n'avez pas...
« Je vous en prie, marchand Kern, vous chagrinez notre hôte. Dame compagne, je vous en prie, permettez-moi. Je serais fier d'offrir au gouverneur l'hospitalité de la maison Restart. Bien que nous autres marchands puissions paraître quelque peu divisés en ce moment, vous constaterez, j'en suis sûr, que Terre-Île-Ville ne manque pas à son hospitalité légendaire. Pour l'heure, quittons ce pont venteux et allons dans la grande chambre du capitaine. Venez, ne craignez rien. Le marchand Kern va envoyer une embarcation au gouverneur. On va vous servir une bonne tasse de tisane et vous nous raconterez vos aventures. »
Il y avait quelque chose de presque réconfortant dans le ton de cet homme ventripotent qui la tenait pour naïve et vulnérable. Elle posa la main sur son bras et se laissa escorter.